bonjour. Donc, nous sommes dans l'émission Ma commune est utile. Aujourd'hui, je suis avec Alain Castan. Nous sommes tous les deux. Nous allons parler essentiellement des budgets. Alors, on sait que, bon, au niveau des communes, vous avez des obligations. Tous les budgets doivent être discutés dans la période de mars-avril, c'est ça?
C'est ça. Il faut bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, malheureusement, Brigitte est prise sur d'autres réunions, donc ne pourra pas être là. On va voir un petit peu de quoi on va parler, donc sur les budgets des communes. Oui, donc les communes, c'est une obligation. D'abord, on doit rendre un budget équilibré, contrairement à l'État qui lui fait ce qu'il veut. Et ce budget équilibré, bien, il doit être rendu avant la fin avril et voté par le conseil municipal à la majorité, bien sûr. Vous savez que depuis quelques années, alors c'est plusieurs gouvernements passés, les budgets des communes s'amenuisent de plus en plus, et déjà c'est pratiquement dans toutes les communes rurales, c'est pratiquement un tiers de notre budget qui a été amputé par l'État sur deux sortes de chapitres. Le premier, bien sûr, c'est la diminution de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement que donne l'État. Donc dans les communes rurales, vous savez déjà que, je vous l'ai déjà dit, qu'un urbain est égal à deux ruraux, c'est-à-dire qu'une commune rurale touche 60 euros par habitant, une commune urbaine touche 120 euros, en gros, à quelque chose près, par habitant. Donc ça, c'est le premier scandale. On aimerait bien le réduire dans ce budget. Le deuxième, bon, donc, sur le tiers à peu près que nous a pris, il a lieu aussi par rapport à la suppression de la taxe d'habitation. Comme je l'avais dit, cette taxe d'habitation est compensée au centime près, c'est vrai, mais avec l'effet de ruissellement, étant donné que la compensation se fait sur le foncier bâti du département, la majorité des communes rurales, étant donné qu'elles avaient des taux qui étaient très bas, se retrouvent avec une surcompensation du département. Et toutes ces surcompensations sont remises dans un pot commun au niveau de l'État. Le résultat, c'est que une commune, je vais vous prendre mon exemple, moi je suis maire d'une commune de 350 habitants. Aujourd'hui, j'ai une surcompensation de 23 000 euros qui ne m'est pas donnée, qui m'est retirée, que l'État a récupérée pour le maire dans ce pot commun. Et les communes urbaines qui, elles, ont des taux qui sont beaucoup plus hauts, je vous prends un deuxième exemple, c'est que la ville de Lyon va toucher plusieurs millions d'euros. Voilà la différence, ça c'est le premier point. Alors sur le budget aujourd'hui, que dire que sur les budgets? Mais ces budgets sont très difficiles à mettre en place pour la bonne raison que toutes ces diminutions font que la commune, eh bien, elle doit, si elle veut investir, et pour développer une commune, il faut investir, bien sûr, est obligé des fois de toucher à la seule fiscalité qui reste, c'est-à-dire le foncier bâti, le non bâti. Et c'est vrai que certaines mairies ont pris la décision de l'augmenter, d'autres ne le font pas. Mais si on compare un petit peu ce qui se passe, c'est que les communes qui n'augmentent pas la fiscalité ne peuvent pas investir, et celles qui l'augmentent arrivent quand même à faire quelques investissements. Voilà un petit peu où on en est. Bien sûr, les maires ruraux, on sait ce qu'on fait, puisqu'on évite de pénaliser nos populations. Et c'est vrai qu'en grande majorité, on ne touche pas à cette fiscalité et on fait avec. C'est-à-dire qu'on va chercher des projets qui rapportent un peu, surtout sur des énergies renouvelables aujourd'hui, qui peuvent rapporter. Et j'en parlerai tout à l'heure, justement, sur les énergies renouvelables, comment on peut aller chercher de l'argent pour les communes rurales. Voilà.
Je reviens sur la question de l'énergie. Ça n'a pas une répercussion sur le budget de vos communes, l'augmentation de l'énergie?
Ah si, c'est énorme. C'est énorme. C'est la deuxième pénalité qui nous tombe sur la tête. C'est-à-dire que, heureusement, une très grande majorité de communes rurales de la Dordogne, comme celle de Nouvelle-Aquitaine, ont fait ce qu'on appelle un groupement d'achat autour du syndicat des énergies, qui est géré par Philippe Dussène. Et c'est vrai que ça va limiter l'augmentation, mais quand même, il va falloir multiplier dans nos budgets les factures d'électricité par 1,8 et les factures de gaz par 2,5. Alors vous imaginez l'impact qu'il y a sur une commune. Moi, je vois, j'ai à peu près, en gros, 8-9 000 euros. Il va falloir que je passe à 18-19 000 euros. Donc ça, c'est un impact important par rapport aux énergies. D'autant plus que politiquement, On le voit bien, à une époque, on disait qu'il fallait privatiser EDF. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de se rendre compte que cette privatisation, elle est tronquée. Et du fait de l'Europe, il y a deux pays qui ont décidé de se retirer, enfin de ne pas suivre les consignes européennes, c'est l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, eux ont un tarif du mégawatt qui est tout à fait abordable, alors que nous, il a multiplié par 4. Donc voilà, donc, sachant en plus qu'on était parmi les meilleurs au niveau des énergies nucléaires, et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on ne peut pas supprimer le nucléaire comme ça. Les Allemands sont en train de le faire, mais en accélérant le charbon. Et c'est vrai que j'ai vu à la télévision des plaines entières d'éoliennes. Et je trouve qu'esthétiquement, même si ça rapporte, si l'énergie est moins chère, c'est vraiment des campagnes qui sont devenues vraiment désagréables. Et c'est vrai que dans notre département qui est très rural, moi je soutiens les maires qui disent qu'ils ne veulent pas d'éoliennes. Il y a d'autres façons de faire. Par exemple, c'est d'avoir des énergies renouvelables à taille humaine, c'est ce que je dis, vraiment à taille humaine, c'est-à-dire sur les bâtiments publics, sur les bâtiments agricoles, faire un petit peu de photovoltaïque sur toiture pour l'eau chaude, toutes ces choses-là, de faire des champs photovoltaïques qui ne dépassent pas un hectare, plutôt que de voir ces marchands de vent, comme je dis, qui viennent proposer des 15, 16, 20 hectares. Et là, ça devient dangereux. Quoi. Voilà.
Je reviens toujours sur la question des budgets, là, les contraintes supplémentaires. Vous avez du personnel, il y a eu les augmentations du point d'indice. Est-ce que l'État a compensé? Et il y a aussi les mutuelles qui sont en train d'imposer au niveau de l'État dans le contrat dans les prochaines années. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect?
Bien sûr que non. C'est le dernier coup sur la tête qu'on nous a donné. C'est-à-dire qu'on a monté le point d'indice et on ne peut pas aller contre parce qu'on le voit bien, nos secrétaires de mairie, ce sont les oubliés de l'État. Et c'est vrai que ces pauvres secrétaires de mairie ont un travail qui devient de plus en plus important. Elles prennent la place de beaucoup de services publics. Et en compensation, ils ont des salaires très bas avec souvent des horaires qui sont coupés puisque certaines font plusieurs mairies à la fois. Donc quelque part, moi je trouve normal qu'on les ait augmentés. C'est largement pas assez, je dis, parce qu'elles le méritent largement. Et s'il y a quelque chose que je voudrais féliciter, c'est bien ce genre de personnes parce que Elles sont avant tout, avec le maire, le personnage le plus proche des concitoyens. Et c'est vrai que quelque part, dans le budget, il faut en tenir compte. Mais ça, c'est quelque chose que l'on accepte parce qu'on ne peut pas laisser ces gens de côté. Et il va falloir même faire mieux parce que ce sont des gens qui sont apparemment... Alors je dis entre parenthèses par rapport à la catégorie territoriale, ce sont des gens qui sont en classe C, alors qu'ils devraient être minimum en classe B et peut-être même certainement en classe A. Voilà. Donc oui, ça joue aussi, mais c'est un sujet quand même que l'on comprend. Alors bien sûr, l'État aurait pu compenser, mais l'État ne donne rien comme d'habitude.
Alors comment vous faites augmentation de l'énergie, augmentation des frais de personnel, diminution des rentrées, tu vas gérer le budget de ta commune, tu vas faire moins d'investissements, moins d'aides, ou augmenter les impôts?
Non, les impôts, les impôts, moi j'ai toujours dit que il faut les augmenter, mais bon, déjà, ils sont augmentés de par l'inflation. C'est-à-dire que cette année, les bases locatives ont augmenté de 7,1%, ça c'est important. Donc il y a déjà un revenu un peu plus conséquent sur la fiscalité. Mais aller au-delà, c'est pas raisonnable aujourd'hui. Quand les gens vont voir leurs impôts monter de 7% par le seul fait de l'inflation, on ne peut pas se permettre d'augmenter plus. Alors comment on fait? Comment on fait? Eh bien, on a deux solutions. La première, bien sûr, c'est de ne pas investir, d'investir au minima. C'est-à-dire que quand vous avez 2, 3, 4 projets dans une commune, eh bien, aujourd'hui, vous n'en faites plus qu'un ou deux. Et vous allez sursoir sur les deux ou trois autres et les faire dans le temps et dans le mandat. Et là, La deuxième chose, je le disais, c'est d'essayer d'aller chercher des revenus un petit peu extra-communaux. Alors ça peut être par des locations de logements, à partir du moment où les gens ont des logements et qui ont été refaits, des mairies qui touchent des loyers. Le deuxième, c'est les énergies renouvelables. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis en train de monter une centrale photovoltaïque qui ne dépassera pas les 2 hectares. Donc elle rapportera un petit peu d'argent à la commune. Et le troisième point que moi j'ai trouvé qui était intéressant, je suis sur un axe routier important qui est le CD 933. J'ai 300 camping-cars qui passent par jour. Et bien voilà, j'ai fait le pari de monter une aire de camping-car. Ça a été le gros projet de ma mandature. Et cette aire de camping-car commence à me rapporter quand même un peu d'argent. Et c'est à travers des exemples comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Mais ce qu'il y a aujourd'hui... Autant on était content de pouvoir travailler avec l'État, l'État aujourd'hui abandonne complètement la ruralité. Et c'est vrai que c'est très difficile et on se pose des questions. Et la question que je me pose moi aujourd'hui, d'autant plus qu'on va faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui va se présenter à la mairie, qui va se présenter au conseil municipal, 500 000 bénévoles qui sont conseillers municipaux, comme municipaux, je pense que dans les prochains mandats, il y en aura beaucoup moins, parce que les gens de 64 ans ne voudront pas y aller. Et donc, ça va poser un gros problème. Et pour finir, nos associations, on a la France a cette particularité d'être associatif, il y a énormément d'associations. Je me demande s'il y aura encore des gens pour mener ces associations, et ça va être aussi un passage difficile.
Un dernier petit point par rapport à la fiscalité, là, tout le monde va recevoir dans les prochains jours pour faire sa déclaration d'impôt. Il y a un élément supplémentaire. Aujourd'hui, les gens doivent déclarer leur logement. Est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à ça?
Oui, mais ça paraît logique parce que bon, à partir du moment où on a supprimé la taxe d'habitation, il faut quand même savoir qui est propriétaire, qui est locataire. Donc celui aujourd'hui qui est propriétaire doit déclarer sa maison. Mais ce que je crains, c'est que je ne voudrais pas que l'État se serve de ce recensement pour encore taper sur la tête des gens au niveau des impôts et du foncier bâti. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est parce que les résidences secondaires sont encore taxées de la taxe d'habitation, mais c'est pour reconnaître ceux qui ont des résidences secondaires et comme ça, toucher la taxe d'habitation dans le droit des impôts, et voilà, donc quelque part, ça paraît logique à partir du moment où c'est juste une information et que ça ne soit pas un début d'inquisition chez les gens. C'est surtout ça que je ne veux pas, moi.
Bon, on va faire notre petite pause musicale et puis on va reprendre tout de suite après.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Donc ben, nous reprenons notre émission. Donc on va changer de sujet. On ne va plus parler des impôts, des budgets, parce que bon, c'est un petit peu compliqué pour ça. C'est dommage qu'on n'en ait pas notre ami de Platon, M. Platon, qui est le maire de Ribérac, pour nous parler de sa commune, suite à la tempête d'il y a bientôt presque un an, où on voit qu'il a eu 52 bâtiments d'abîmés, et lui, au niveau investissement, sa commune va être drôlement touchée. Donc je sais qu'il y a des communes aujourd'hui qui prennent des motions pour aider cette mairie, mais surtout demande au gouvernement de prendre des mesures pour éviter ce type de catastrophe, de moins. S'il y a ces catastrophes, qu'ils puissent être indemnisés.
Oui, alors ça, bon, moi je l'ai pris dans ma mairie, on a pris une motion pour demander et au préfet et à l'État d'accélérer l'état de catastrophe naturelle. Bon, ça, je pense que ça a été fait, mais le problème, le gros problème maintenant qu'il y a par rapport à nos populations et par rapport aux personnes qui sont en désarroi par rapport à cette tempête, parce que quand on passe à Ribérac, c'est une véritable catastrophe. Et c'est vrai que c'est les assurances qui ne jouent pas aussi le jeu. Il faut arrêter ce lobbying des assurances sur l'état de catastrophe naturelle. Il faut que les assureurs prennent leur pleine responsabilité et payent, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir un groupe de communes autour de Ribérac, parce qu'il n'y a pas que Ribérac, il y a les communes autour, partout où est passée la tempête, et il faut absolument aider ces gens. Et c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier non plus. Donc c'est vrai que moi j'invite tous les maires à voter cette motion. Elle va être, je vais la faire suivre moi, au niveau de la MRF, je vais la faire suivre à toutes les communes, de façon que les communes puissent prendre cette délibération, mais ce qu'il faut surtout, c'est faire pression sur le préfet et sur l'État pour que ce territoire soit pris en charge.
Oui, parce que je crois que dans la motion, donc, il y a un petit paragraphe aussi qui demande aux députés, aux sénateurs, de prévoir un projet de loi qui permette, avec quand il y a ce type d'événement, parce que nous, on a connu la grêle, mais c'était des tout petits grêlons, une grosseur d'une bille. Aujourd'hui, c'est des boules de pétanque, ça ne fait plus tout à fait les mêmes dégâts. Et on en voit les conséquences financières pour les personnes, les entreprises et les communes.
Oui, ça aussi, on l'a envoyé. C'est vrai qu'on a demandé dans cette motion aux parlementaires à intervenir. Alors, je sais déjà que Serge Mériou et Marie-Claude Varayas sont intervenus au Sénat. Le Sénat est en train de travailler sur un texte qui englobe tout ce qui est état de catastrophe naturelle, parce qu'il y a aussi les maisons qui se détériorent à cause du réchauffement climatique. Donc ça, on peut faire confiance au Sénat à l'heure actuelle pour essayer de trouver des solutions par rapport à cet état de catastrophe naturelle. Maintenant, l'Assemblée nationale, c'est pas la même chose. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, bien sûr. Mais bon, c'est à eux aussi à faire le forcing pour qu'il y ait quelque chose de serein et puis qui vraiment aide la population. Et quand on voit ce qui s'est passé là dernièrement, je ne suis pas du tout sûr que l'Assemblée nationale ait envie de pondre un texte sur les catastrophes naturelles. Voilà, ça c'est mon avis personnel, d'autant plus qu'on se rend bien compte aujourd'hui à travers les parlements et qu'à l'époque, sur le cumul des mandats, un mandat local est absolument nécessaire. Et c'est vrai que quelque part, un député aujourd'hui qui n'a que ce mandat de député, mais souvent, il est hors sol, il ne sait pas ce qui se passe sur son territoire, et ça, c'est dramatique. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, mais il y en a certains, on le voit bien, c'est plus des politiques que des aménageurs.
Et on le voit, ce qui se passait encore dernièrement en Creuse, il y a 15 jours, où il y a une petite tempête à Pontarion, qui a mis la situation assez difficile, mais on voit aujourd'hui, avec la difficulté que vous avez à faire des budgets, si demain votre école elle est détruite ou la mairie par tempête, vous ne faites plus rien, quoi.
Mais tout à fait. Les bâtiments publics, ça fait partie aussi des dégâts, comme l'est une maison, comme l'est une route, comme l'est une ferme agricole. Les bâtiments publics, c'est important. Il y a l'école, il y a la mairie, il y a la salle des fêtes, la cantine, toutes ces choses-là, et le pire, c'est que ça coûte horriblement cher. Et c'est vrai que quelque part, si on n'est pas aidé et par l'État, et par la région, et par le département, ça devient de plus en plus difficile. Entièrement d'accord. S'il y avait un texte sur ces catastrophes qui sortent des deux parlements, ça serait une bonne chose.
Et je te remercie. On va toujours parler un petit peu catastrophe, mais bon, ça, c'est un peu différent. C'est la désertification médicale. Donc aujourd'hui, on a eu un petit exemple sur la commune de Saint-Léon, où la pharmacienne qui est en place va partir à la retraite, et on a une aberration, c'est qu'elle est rachetée pour être fermée. Qu'en penses-tu ?
Mais tu m'as expliqué le comment du pourquoi. C'est vrai que quelque part, si cette pharmacie est à vendre avec un chiffre d'affaires, tu m'as dit, de plusieurs millions d'euros, si elle doit être achetée par le plus gros pharmacien du bourg-centre qui est à côté, ça veut dire que derrière, il va vouloir la fermer pour ramener les gens sur ce chiffre d'affaires et accentuer son chiffre d'affaires à côté. Donc ça, c'est complètement anormal, parce qu'il y a une question de mobilité et de développement durable. Donc quelque part, les gens ont besoin de leur pharmacie à proximité. Alors, comme je le répète souvent, on est en train de regarder ce qui se passe au niveau des médecins. Alors c'est vraiment un sujet un peu tabou, mais il faudra bien qu'on arrive aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y a que la régulation qui pourra sauver la situation. Si on régule, on y arrivera, c'est-à-dire imposer à des jeunes médecins de commencer leur carrière dans le monde rural. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un médecin pour pratiquement 10 000 habitants dans le monde rural et puis en avoir 10 à Biarritz ou à Bordeaux. Donc ça, c'est inadmissible. Et c'est vrai que quelque part, il faut trouver une solution. Alors bien sûr, ça passe aussi parce qu'on comprend maintenant les jeunes médecins ne veulent pas faire comme nos anciens qui travaillaient de 8 heures du matin à 10 heures du soir. Ils veulent avoir aussi des temps, des plages de repos, des plages de loisirs. Ça, les communautés de communes qui ont cette compétence-là l'ont regardé. Et c'est vrai que la solution, ça passe aussi par les regroupements, donc par des maisons pluridisciplinaires. C'est comme ça qu'on appelle les regroupements de médecins, d'infirmiers, d'ostéopathes, de kinésithérapeutes, d'infirmiers. Voilà, tout ça marche. On en a quelques-unes qui se sont montées en Dordogne. Elles sont aidées par l'État, la région et le département. Et c'est vrai que c'est certainement la solution. Mais il y a aussi l'attractivité du territoire, et c'est important, que ce soit dans le Ribéracois, que ce soit dans la vallée de l'Isle, que ce soit dans la vallée de la Dordogne, que ce soit dans le Sarladais, partout. Il faut qu'il y ait de l'attractivité sur le territoire. Et ça, l'Interco, qui est un outil au service de la commune, se doit de trouver cette attractivité. Et pour moi, en ce qui me concerne, en tant que vice-président d'une communauté d'agglos, celle de Bergerac, on est en train de faire un centre événementiel, on a fait la Coalude, on a fait la véloroute, on espère que le département va pouvoir nous aider à faire le stade d'eau vive. Voilà, c'est important, d'avoir ça. Et aussi, un sujet majeur aussi par rapport aux jeunes médecins, c'est d'avoir des crèches, d'avoir des médiathèques, d'avoir des choses comme ça, quoi. Si on arrive à développer ça, on arrivera à faire venir des médecins. Si on ne le fait pas, ben les médecins ils iront là où il y a de l'attraction.
Là, je crois que tu as parlé d'un terme qui m'intéresse, c'est la régulation. Effectivement, aujourd'hui, si on ne régule pas un certain nombre de choses, si on laisse place au libéralisme total, on va se trouver dans une situation catastrophique sur notre département, mais d'autres départements aussi.
Forcément, et c'est pour ça qu'il y a... Alors, je pense que Bergerac l'avait initié là, avec Daniel Garrigue à l'époque, qui a monté un cabinet de médecins qui sont salariés de la ville. Et c'est vrai que quelque part, ça paraît intéressant, parce qu'aujourd'hui, un médecin, il ne recherche pas forcément que de gagner de l'argent. Moi, je le sais, je le vois, les médecins de l'époque, c'était des gens qui gagnaient entre 9 et 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, mais qui travaillaient énormément, c'est-à-dire qu'ils faisaient ça faisait un double emploi. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent travailler moins, mais avoir plus de loisirs. Donc, se contenteront de salaires qui sont quand même assez conséquents, de l'ordre de 5 000-6 000 euros. Voilà, c'est un petit peu le monde de demain. Et on peut comprendre que ces jeunes médecins, ils ont envie aussi de vivre avec leur famille, avec leurs enfants, et puis avoir des loisirs et avoir des vacances. Voilà.
Ben, je te remercie. Nous allons clôturer notre émission et donc au mois prochain. Bonne journée à tous.
Au revoir à tous.